Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans vos Une vie, une œuvre de l'été, une sélection d'émissions regroupées par thème, qui débute aujourd'hui avec le premier d'entre eux, les polars. Quatre thématiques donc tout au long de l'été, du design avec Pierre Paulin, Ettore Sottsass, Raymond Lehoui et Walter Gropius, ce sera à partir du 26 juillet. En août, une thématique musique, classique avec Wagner ou Scriabine, mais aussi chansons avec Charles Trenet par exemple. Et puis fin août, des numéros consacrés aux grands voyageurs Marco Polo, Hugo Pratt et d'autres. C'est donc avec les polars que nous commençons. La semaine prochaine, Léo Mallet puis Graham Greene le 19 juillet et San Antonio le 20. Et oui, j'ai bien dit le 19 et le 20, car vos Une vie, une œuvre de l'été ne sont pas comme ceux de l'année. Ils ont lieu à la fois le samedi et le dimanche à 17h. Mais pour commencer la série, je vous propose donc une émission sur Albert Simonin, l'auteur de « Touchez pas au Grisby ». Cet écrivain d'Henri Nimier disait qu'il remettait de l'ordre dans le crime, comme Malherbe l'avait fait dans le verre. C'est une émission d'Élodie Maillot et Céline Terce, diffusée une première fois le 24 avril 2008.
On n'aurait pas dû venir.
La gueule.
Il est parti.
Non, mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait.
Simonin était un auteur qu'on a sous-estimé parce qu'il a travaillé sur beaucoup de scénarios, mais c'était un petit peu un nègre en quelque sorte d'auteur parce qu'il travaillait, il faisait l'adaptation, il déblayait les choses et ensuite c'était repris par des auteurs qui naturellement amélioraient encore et finalement signaient en poste de scénariste alors que lui était adaptateur.
Simonin était notre maître à tous. L'expression d'Audiard sublime, c'était « c'est le Vosgelat de l'argot ».
C'est les mêmes mots, non, je pense, le pèse, le flouze. Ouais. Depuis Grisby, on dit les thunes, les liasses. Les rappeurs d'aujourd'hui sont les héritiers des gens comme Albert Simonin. Il n'y a pas de hasard au fait qu'ils viennent du coin, que je vienne du coin, qu'on parle des mêmes choses. C'est tout à fait naturel, c'est un héritage.
Bah, essaie de gamberger un peu pour une fois.
Je vois pas, Max.
Bah, moi, je vais t'expliquer. Il voulait tout simplement t'emmener dans un coin tranquille et puis te travailler à la caresse pour savoir où on avait planqué notre Grisby. Et puis, pour être plus sûr, il voulait m'embêter, moi aussi. Alors, tu y es maintenant. Hein ?
Les histoires d'Albert Simonin, elles font tellement partie de l'inconscient collectif qu'on se demande plus qui est l'auteur. C'est comme au clair de la lune. On se pose plus de questions. On croit que ça a toujours existé et puis que l'auteur vient de la nuit des temps. Par exemple, je connais qu'une seule loi dans ce métier, c'est des fois il y a le premier. Mais c'est des choses qui tournent, quoi. On s'auto-éduque. Donc en foyer, des foyers, on croit même que c'est né dans notre quartier, quoi. Si Albert Simonin écrivait aujourd'hui, il serait sûrement issu de l'immigration.
Tiens, mais regarde ta tronche un peu. Regarde, graffe un peu les valoches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça.
Oh, tu exagères un peu, Max.
Non, non, j'exagère pas, j'ai du chou, moi.
Il était mignon. Il était un peu joufflu. Il était chauve. Enfin, dessus le crâne. Il avait un très grand front, qui était pas luisant, mais... Alors, c'était beau, il avait une belle peau.
Non, il avait tellement de charme, tellement de... talent qu'on oubliait, bon, qu'il avait peut-être le cou un peu fort, les bras peut-être un peu courts. Lui, ça le gênait beaucoup.
Et alors, l'ami Simonin, moi, je l'aimais bien. Il avait un côté un petit peu rondouillard, comme ça, un petit peu malicieux, prompt à la blague, à la répartie.
Et un regard perçant, qui savait tout en un instant.
Il était d'une curiosité permanente, non seulement pour les livres, mais pour les personnes qu'il croisait. Disons, de l'académicien à la marchande des quatre saisons. et les marchandes des quatre saisons de la rue Lecourt connaissaient Albert Simonin, pas forcément ses œuvres, mais c'était un monsieur qui parlait comme eux.
Alors là, ça c'est nous, là ça devient chilien, tu comprends ?
Et puis la voix était ce qu'elle était, avec cet accent de La Chapelle. La Chapelle, c'était un faubourg. Et un jour, je lui ai dit, mais dis-moi, on mange dans un bistrot des Champs-Élysées, mais est-ce que tu connaissais les Champs-Élysées dans ton enfance ? Ah, mais bah non, j'aurais eu trop peur. On venait pas par ici, nous.
La Chapelle, aujourd'hui quartier nord de Paris, n'était en 1905, lorsque naquit Simonin, qu'un faubourg de la capitale, mal éclairé, mal famé, et où en ce temps, l'eau n'était pas courante, tout comme le carbure, cette denrée rare que la famille Simonin économisait centime après centime. Dans ce quartier, la plus terrible pathologie locale, c'était bien l'hémorragie du morlingue, la fuite du flouze. À La Chapelle, on vit en ce temps grâce aux ardoises laissées chez les commerçants et on se nourrit d'arlots, les arlequins, ces assiettes multicolores de restes vendues par les grands restaurants. C'est là qu'Albert Simonin côtoie dès son enfance un Paris populaire, des femmes de petite vertu et des gros bras peu regardants sur l'origine de la thune. Il y forge sa langue truande, au hasard des rencontres, en entendant des vertes et des pas mûres murmurées par les voyous qui s'exprimaient dans leur langue verte sur les choses de leurs conditions, les vicissitudes de leur état, l'incertitude de leurs amours ou la précarité de leur destin. Mais bien avant les honneurs de Saint-Germain et son prix littéraire des deux magots, c'est à La Chapelle que Simonin avait pris son premier billet pour la littérature, dans la bibliothèque du coin où il est jeune appariteur et découvre ainsi Charles Dickens, Anatole France ou Alexandre Dumas, puis le tango et le passo-doble, avant que sa vie ne soit à jamais marquée par la lecture de Mort à crédit.
Le chaland glisse et j'emporte d'un geste vainqueur jeune corps qui m'apporte l'inconnu moqueur de son cœur.
Je suis venu au monde à crédit. Mon père, qui traquait l'outsider sur les hippodromes de la région parisienne, devait mettre 2 années, thune après thune, à honorer Madame Weber, la sage-femme qui venait de délivrer ma brave maman. Il ne s'agissait pourtant que de 50 francs. Ainsi, dès mon premier vagissement, me trouvais-je voué au croum. Fatalité que la suite de mes jours ne devait pas démentir. Cet accroissement d'une unité de la population parisienne eut pour théâtre le logis de mes parents, 6 rue Riquet, à La Chapelle, 18e arrondissement. Les naissances en ce temps et en ce faubourg avaient lieu, par souci de respectabilité, au domicile des géniteurs. Les maternités de l'assistance publique étant réputées dans l'esprit du populaire devoir être la ressource des filles mères, des rôtisseuses de balais, voire des franches putes, parturiente condamnée pour sans raison, dont la moindre était la gratuité à l'accouchement subreptice.
Tiens, le voilà enfant, avec la petite sœur Thérèse. Bon, bien, il a des petites chaussettes qui montent jusqu'au mollet, avec des petites chaussures lacées.
François Simonin, Lucas.
Bon, il a l'air d'avoir un tablier, je sais pas, et un petit béret sur le côté. Il a l'air d'une petite canaille.
Vous trouvez pas qu'il a l'air d'un enfant modèle ?
Oui, mais une petite canaille modèle.
J'avais 7 ans, je suis entré dans le préau de l'école communale de la rue de Torcy, et là j'ai pris mes premières leçons d'argot avec mes petits potes du quartier, des gamins de la plaine Saint-Denis qui n'avaient pas d'école à l'époque. Et alors ça, ils roulaient en jarre de façon traditionnelle. J'ajouterais que nous avions un directeur d'école, excellent pédagogue, qui, ayant compris qu'il avait affaire à des jeunes gens à qui il fallait parler une langue un peu de rue, admonestait les petits voyous en argot.
Et puis, sa maman, ça, il ne m'a pas beaucoup parlé de sa maman parce qu'il l'a surtout vue malade. Parce qu'elle a dû mourir quand papa avait 12-13 ans. Bon, son papa jouait beaucoup aux courses, mon grand-père. Il était fleuriste artificiel. Il était spécialiste pour la pensée, pour les modistes de l'époque, avant la guerre de 14, bien sûr, parce que la guerre de 14 a tout interrompu. Il n'y avait plus de fleurs sur les chapeaux, il n'y avait plus de chapeaux. Les hommes étaient au front et oui, les femmes, elles avaient d'autres choses à faire que d'être coquettes, de s'occuper de leur tenue. Donc, ce brave homme, il allait flamber, entraîné par un de ses beaux-frères, qui lui était banquier, qui a dû bouffer sa banque, du reste, avec les danseuses et aux courses. Les deux l'ont soulagé de ce qu'il avait.
Elle n'est pas fautive, mais elle est un peu nerveuse.
Oh, bah, sa mère était comme ça, si j'ai bonne mémoire. Jolie bête, hein? Mais il sait tout faire, ce coco-là.
Je suis venu acheter des pouliches. Ah, bah, c'est vrai, tu savais pas, je fais de l'élevage de trotteurs chez moi.
Tiens.
Bah oui, parce que l'Angloira vient pas très bien dans mon bled. Alors, je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de Tarbet pour améliorer les antérieurs.
Papa, dès qu'il a eu le certificat d'études, à 12 ans, bah, il a été travailler, ça on ne lui a pas demandé, allez hop, au boulot. Bah, il a fait 1000 métiers. Hein. Son premier boulot a été de vendre des chemises pas loin de l'opéra. Ils ne l'ont pas gardé parce qu'il n'avait pas le profil d'un vendeur de chemises, je crois. Bon, après... Ah, il a été électricien même à une époque, pas longtemps du reste, parce qu'il y avait un salon de thé qui devait être rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et...
C'est un salon chic.
Oh, sûrement, et rue du Faubourg-Saint-Honoré. Bon chic, bon genre, sans doute. Et bon, ben, il a travaillé, puis il a foutu le feu, sans le vouloir, bien entendu. Comme il, je sais pas, il doit avoir 13-14 ans comme employé. Et il a été couvreur à la gare de Sterlitz, et il est tombé sur la verrière. Bon, ça a interrompu net sa carrière de couvreur. Il n'a pas persévéré.
Albert Simonin, il est un Riquet, il a grandi dans le coin. Riquet, c'est borderline, comme on dit, avec Aubervilliers, c'est une pré-banlieue.
Oxmo Puccino.
Il a connu la précarité, il a été orphelin jeune. Bah forcément, ça apporte une certaine expérience de la personne et surtout des genres de problèmes qu'on peut rencontrer quand on est exclusivement dans une catégorie sociale proche de la pauvreté, voilà, de côtoyer les truands et compagnie. Et donc, de là, on a beaucoup d'histoires à raconter. Et je pense que c'est commun à toutes les personnes qui grandissent dans ce genre de situation et qui ont le talent de s'exprimer, d'institutionnaliser le langage de son coin, qui quand même gouverne un pouvoir social, c'est ça. De toute façon, ce qui fait tourner la terre est un manque ou une recherche d'amour.
Tata Stella, qu'il s'est trouvé. Il a tiré à la loterie de l'existence la série des ceux qui n'ont pas de chance.
Est-ce qu'il parlait par exemple aussi beaucoup de la guerre de 14-18 qui a été vécue dans la famille quand même comme un drame, non ?
Ah, oui, si. Ce qui a été vécu comme un drame, c'est le décès du frère de papa, son frère aîné. Ça a été un véritable drame et mon père vénérait beaucoup son grand frère. Et c'est vrai, qui s'occupait de la famille, oui. Mais il s'en est pas occupé longtemps parce qu'il est parti militaire et le pauvre homme craque. Et il est décédé aux Dardanelles et la famille là a explosé. Comme ils étaient pauvres, chacun s'est débrouillé comme il a pu.
Il est tombé, il a tiré au jeu de l'amour. Une mauvaise brème, un cello qui dise comme on s'aime. Juste à la veille de vous doubler de ces fières dentées si belles que rien semble assez beau pour elles tant on craint de les voir se tirer.
Ils se rencontraient rue du Ruisseau. Ils habitaient tous les deux rue du Ruisseau, chacun d'un côté de la rue. Ils ont dû se faire des signes par la fenêtre, les deux orphelins. Parce que maman était orpheline à l'âge de 5 ans et papa à 16. Maman était roumaine. Et roumaine élevée dans un bled de montagne où il n'y avait pas d'école. Et bon, ils se sont plu sans doute. À cette époque-là, il était chauffeur de taxi. Du reste, quand je suis née, il devait faire le taxi la nuit. Donc en 1932, il devait faire le taxi la nuit parce que quand maman a été prise de douleur pour accoucher, c'est un voisin qui l'a transportée à l'hôpital de la Riboisière. Quand il a eu terminé sa nuit, ben il a appris qu'il était père d'une belle enfant, bien sûr.
Et alors, il m'a raconté, grâce au taxi de nuit, qu'il a fait la connaissance d'un certain nombre de gens.
Alain Decaux.
Dans des endroits comme Pigalle ou ailleurs. Et est-ce que c'est dans le milieu ou dans un milieu? Les deux. Tout ça s'est accumulé, mais très longtemps. Il a écrit un petit livre, quand même, sur ses souvenirs de chauffeur de taxi. Je crois qu'il a même été écrit avant la guerre.
Providence du noctambule égaré, complice des amours subreptices, témoin attentif de la vie nocturne parisienne, le nuiteux, faut pas confondre, n'est nullement le chauffeur de taxi banal. Il a choisi la pénombre pour exercer son industrie. C'est souvent qu'une pente poétique l'y a incliné. Savoir d'un regard jauger le répondant financier d'un client n'est pas une faculté commune.
Et moi, j'ai un très curieux souvenir d'un chauffeur de taxi qui était simple comme la fleur des champs et Mort à crédit venait de paraître et je lisais Mort à crédit en station. Et il s'approche et il me dit « T'es encore dans tes conneries ?» Ben, je dis « Écoute, tu vas l'acheter, tu le lis et si t'es pas content, je te le reprends pour le même prix. Je peux pas te faire une offre meilleure. » Je l'ai pas revu d'un mois. Non seulement il avait lu Mort à crédit, mais il avait acheté le voyage et il pouvait me les réciter presque à l'envers. Pour lui, c'était la vraie littérature populaire. Pour lui, il était un gars de Levallois. Et moi, je pense le plus grand bien de Louis-Ferdinand Céline, parce que il a eu ce mérite de montrer jusqu'où on peut aller trop loin. Et il fallait le faire à l'époque. Il fallait un foutu courage pour... Parce que ça a été tout de même... Le voyage au bout de la nuit, ça a éclaté comme une bombe.
Crac, manque de bol, déclaration de guerre. Et papa est parti militaire. Et à partir de là, bah, ça a été la galère. Je l'ai aperçu. Il a été fait prisonnier jusqu'en fin 40 ou 41. Et puis après, bah, la vie a fait que c'est devenu très compliqué. Je l'ai vu après épisodiquement parce que bon, il avait quitté maman, il avait sa vie de son côté.
Il l'a quitté pendant la guerre ?
Il l'a quitté en 43. Il s'était fait emballer par une dame Et puis comme il a eu, lui, des problèmes parce qu'il avait écrit dans la presse pendant la guerre, ça n'a rien arrangé. Puis la dame, elle l'a laissé tomber. Alors ma maman s'en est occupée pendant qu'il avait ses problèmes. Et quand il est ressorti, fin 50 peut-être, bon, il avait essayé avec des amis de monter une revue « Manger et boire ». Ça a foiré, c'était trop tôt. L'idée était bonne, mais ça n'a pas...
Commence par le commencement.
Il ne faut jamais avoir raison trop tôt.
Qui est-ce, le mec du jus de pomme?
Ça doit être de moi dont vous voulez parler.
Dis-moi, dans ta branche, là, ça va pas très fort non plus, hein? Pourtant, du pastis, vrai ou faux, on en boit encore.
C'est moins qu'avant. La jeunesse française boit des eaux pétillantes. Et les anciens combattants, des eaux d'origine. Puis surtout, il y a les whisky.
Alors ?
C'est les drames, ça, les whisky.
Il y a des hommes qu'on a pour des riens, aux compliments ou aux sourires. À tel plus beau, tel plus malin, aux regards qui ne veulent rien dire, mais qu'ils encaissent comme du bon pain, ça, ils aiment bien. Petit Louis, c'était pas son genre. Il marchait pas au baratin.
En 1963, Albert Simonin épouse discrètement Marie-Hélène, qui deviendra sa conseillère, sa lectrice, trop neutre en apparence pour l'être réellement, selon leur ami Frédéric Dard.
Il semblait pas voir, pas entendre, rien lui.
Nous sommes donc dans l'appartement que j'occupais depuis 1971 avec mon mari Albert Simonin et que je continue à conserver pour ses souvenirs, son ambiance et le fait que je m'y sens à l'aise depuis que je suis seule. Donc on avait chacun sa chambre au bureau avec mon mari, ce qui nous donnait une certaine liberté de travail, de repos. C'était bon pour l'équilibre du couple, je trouve. J'ai jamais eu beaucoup de bouquets de fleurs dans ses bras quand il revenait, mais il y avait souvent des livres. Il aimait avoir près de lui des livres d'histoire de l'argot. Et il aimait bien relire Proust quand il était en panne. Il se disait, quand on écrit aussi bien, ça doit pouvoir se transmettre. Il est, en quelque sorte, il absorbait un peu le talent de Proust pour essayer d'en tirer une suite à ce qu'il était en train d'écrire. Il prenait Céline, bien entendu, de temps en temps. Il prenait, bon, il doit y avoir Maura Crédit qui doit être un peu plus loin.
Vous ne veniez pas du même milieu, vous?
Non, pas du tout. Moi, j'avais un père architecte. Une mère professeur de piano et compositeur à 16 heures. Donc, pas du tout la même éducation que le petit garçon de la chapelle. Et puis, c'est curieux à quel point on a vite fusionné. On travaillait dans le même journal. Un hebdomadaire qui existait dans les années 50. Ça s'appelait Parole française. Bon, c'était un hebdomadaire de droite. Et on s'est croisés. Il ne m'a pas fait d'effet la première fois, je dois dire. Bon, c'est sûr, vraiment. Donc on a mis 3 mois, disons.
C'était son...
À se découvrir. Puis on a essayé de se quitter le moins possible, mais la situation n'était pas très facile, puisqu'il était donc... encore marié, mais on a franchi beaucoup d'obstacles et puis nos voies ne se sont plus guère séparées. Il y a eu des petits moments de difficulté, des heurts un petit peu, traité quand même un peu de jeune fille trop bourgeoise, et autour de moi je me demandais si ce monsieur marié qui avait 20 ans de plus que moi était exactement le prince charmant dont j'avais rêvé dans mes rédactions.
C'est toi, beau branque.
Joue pas les marles. T'as un 12 chargé en chevrotine sur le bide, ça va faire mal.
Ah, t'es venu me faire des reproches.
Je ne suis pas venu te faire des reproches, je suis venu chercher mon fade et la moitié de suite Charlot. Il a fallu que tu le butes, hein, salope.
Il était trop con. Ce pognon, il se serait fait remarquer en le filant en l'air.
Son langage m'a paru très vite chaleureux, flirty. Et puis je suis entrée dedans comme ça. Ça m'a semblé une langue qui convenait à pouvoir évoquer de façon, avec beaucoup de précision, un certain nombre de choses qui seraient restées floues dans la langue plus classique. Il y avait un ajout, une couleur dans l'argot que j'ai trouvé assez plaisant à pratiquer. Et quelquefois, on demandait à Albert de traduire en argot certaines formules et il s'est refusé généralement parce qu'il disait non, l'argot c'est une langue vivante qui vient dans l'action, dans l'émotion, dans la chaleur des boissons souvent. Fait partie d'un ensemble de sentiments. Ce qu'il aimait, c'est aussi, dans cette langue, c'est de casser la langue courante et de la reconstruire. Il disait assez souvent que la lecture de Céline lui avait fait comprendre qu'on pouvait écrire autrement qu'on écrivait à l'école.
Un beau jour, Albert en a eu assez, parce que Marie-Hélène lisait des séries noires.
Alain Decaux.
À cette époque-là, tout adapté de l'américain. Et il en avait assez qu'elle lui dise « Ah, oh, dis donc, alors là, c'est formidable. » Il lui dit « Bon, c'est rien à faire, ces trucs-là. » Elle lui dit « Tu m'ennuies, essaye d'en faire un. » Ça y est, je te... Dans un mois, il sera fait. Et il l'a fait. Et ce fut touché pas au Grisby. Il a commencé par un immense best-seller, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps. 1 million d'exemplaires, touché pas au Grisby. Et en plus, c'était chez Gallimard, puisque les Polars, la série du Bar, tout ça, c'est Gallimard. Et je me souviens que au fur et à mesure des tirages, l'administrateur de Gallimard arrêtait Albert par le bras en lui disant « Monsieur Simonin, ne dépensez pas tout et les impôts. » Jamais, jamais Albert n'avait pensé aux impôts. Il n'en avait jamais payé puisqu'il ne gagnait pas assez pour payer les impôts.
J'ai pas pris des modèles, j'ai pas dit « Il faut... » Je vais imiter ça, je vais... Non, pas du tout. Un jour, l'idée m'est venue d'écrire parce que je voyais des personnages maltraités. Quand j'ai écrit « Touchez pas au Grisby », qui est mon premier livre sérieux, je venais de lire un roman bateau, un roman américain traduit, comme sempiternellement, il y avait la municipalité pourrie, le privé vertueux, l'archange, enfin, vous voyez tout. Et j'ai dit, j'en ai marre. Moi aussi, nous aussi, nous, vous voyez, c'est une réaction cocardière même. Ouais. Nous aussi, les franchouillards, nous en avons des voyous. Eh ben, je vais leur montrer comment ils sont.
Vieille frappe. C'est une lettre ouverte aux voyous. Alors, vieille frappe au singulier.
Robert Sabatier.
Je t'écris du monde des caves, univers mal connu dans le mi-temps, mais là n'est pas mon propos. Des périls insoupçonnables s'accumulent sur ta tronche, voyou, et me taire friserait le refus d'assistance à personne en danger. Un passé rigoureusement sans tâche me l'interdit. Là, il fait un peu d'ironie.
Et la langue écrite, elle est superbe. Et était-ce une habileté? Peut-être bien, j'en ai jamais parlé. C'est que c'était de l'argot, mais qu'un homme comme moi comprenait. Parce que on suivait l'histoire. Il faut lire également son dictionnaire, le petit Simonin illustré, comme le Larousse. Eh bien, là, c'est naturel, tout ça. Et chaque mot qu'il explique, avec une drôlerie irrésistible. Parce que dans la vie, Albert n'était pas précisément drôle. Mais la langue elle-même qu'il parlait était drôle. Parce qu'il a commencé à pénétrer des tas de milieux avec « Touchez pas au Grisby ». Et il me disait ah, « Tu peux pas savoir, maintenant je bouffe chez les duchesses ».
Tiens, te voilà, toi.
Dites-moi, vous êtes libre à déjeuner?
Pour toi, toujours.
Je voudrais vous avoir chez moi. C'est une merveilleuse idée, non?
Alors, dans ce cas-là, je change de costume et je suis chez toi dans une demi-heure. À tout de suite.
Et puis, alors, le cinéma. Comment est-il arrivé au cinéma? Parce que Jacques Becker a lu le livre et s'est dit que ça ferait un merveilleux film. Mais qui allait écrire ce film? Il dit qu'il faut que ce soit l'auteur. Et à ce moment-là, Albert a écrit avec Becker le scénario, mais le dialogue, c'est lui. C'est vrai que le film est à la hauteur du livre, mais disons, il a suivi le livre étroitement. Et après avoir touché pas au Grisby, qui a été un succès presque aussi grand que le livre, eh bien, on lui en a demandé d'autres. Et il en a fait beaucoup. Alors là, l'art du dialogue du scénariste, du dialoguiste et du scénariste se croisent et s'interpénètrent. Il avait ce don. Tous les romanciers ne savent pas faire un film ou une pièce de théâtre, il se casse en général la figure. Pas lui. Il s'y est mis à fond et tout de suite. Alors évidemment, il y a eu la rencontre de Michel Audiard, mais pas tout de suite, enfin, assez rapidement quand même, parce qu'on les a associés, ils ont travaillé pendant des années ensemble, 15 ans peut-être, et j'ose dire, sans nier un instant, le talent et disons même le génie d'Audiard, que Audiard, celui que nous connaissons, a été formidablement influencé par Simonin. Parce que si on regarde les films d'Audiard, dont il a écrit le dialogue, avant et après Simonin, c'est pas du tout la même chose.
Est-ce qu'il est difficile de travailler avec Albert Simonin?
Ça dépend, c'est très facile parce que c'est un garçon jovial et avenant, mais c'est empoisonnant parce qu'il n'a aucun sens des horaires. Regardez, il devait venir à 10h, il en est 11 et c'est tous les jours comme ça.
Dépêchez-vous, monsieur Simonin, Michel Audiard vous attend.
Monsieur Audiard m'attend, ça c'est la plus drôle de la saison alors.
Alors là, toujours, vous comprenez, le réveil qui n'a pas sonné, la bagnole qui n'a pas voulu partir, les taxis qui n'ont pas voulu le charger. Simonin, c'est l'éternel jouet de la fatalité à l'entendre. Alors tout arrive.
Qu'est-ce que vous maquillez tous les deux?
Charles me montrait les plans de la nouvelle cabane qui vient de se faire construire à côté de Cannes.
On causait bâtiment, madame.
Bah faut pas. Professeur l'a recommandé. Faut plus qu'il cause, Mario. De rien.
Tu lui claques pas le beignet?
Elle aimerait pas.
Quand on a affaire à deux pointures comme Simonin et Audiard, et qu'on est un jeune metteur en scène, on les écoute, on les regarde et on ferme sa gueule.
Georges Lautner.
Ce qui m'intéressait, c'était l'humour de Simonin et la rencontre entre Simonin et Audiard qui les amenait à déconner sur un sujet qui pouvait être sérieux pour eux, mais que j'avais envie qu'on prenne à la rigolade. Et puis, la langue qu'ils ont inventée tous les deux, c'était pas de l'argot. Parce que quand on a des phrases comme ils en ont inventé, c'est une langue spéciale. Ils sont mis tous les deux à rêver. Et je crois que la complicité de Simonin et d'Audiard était beaucoup plus dans les tons humoristiques que dans l'argot. Parce que l'école... l'école de cette époque, c'était quand même Jacques Prévert qui, pour moi, a représenté une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière d'être poétique. Et je crois que c'était ça l'influence de base.
Tout le monde lit des grossièretés maintenant dans les films. On attend que ça, alors il faut être un peu plus original. Alors,
dans la scène là, par exemple.
Oui, par exemple, tu vois, un peu, pour ça, je peux me payer une infirmière. Ben non.
Ah oui, c'est ça.
C'est le mot. Ouais, c'est le mot. Pour une pauvre fille.
Pour une fille, qu'est-ce qu'on peut trouver?
Oui.
Gourde, ça te va?
Gourde.
Et c'est pâle. Hein.
Non, oui.
C'est pâle. Paumé.
Oui, ça fait triste.
Ça fait triste, oui.
Boudin ou Goyot, c'est caressant, Goyot.
Oh, qu'il est vulgaire. Oh, que Simonin est vulgaire.
Un gage de charcutier.
Oh là là.
Que tu t'es pas gouré de crèche?
Je me gourre jamais, rien.
Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comics, ça va saigner.
Si vous voulez vous donner la peine d'entrer.
Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir au siège de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
Donc nous sommes dans votre bureau, Pierre-Jean Lancry, et c'est un lieu peut-être un petit peu incongru pour parler des tontons flingueurs, mais vous êtes un spécialiste.
Bon, disons que je suis monomaniaque sur le film Les tontons flingueurs, oui, et puis j'en ai fait un bouquin, oui. C'est à mon avis un film qui est une narration, des images, le langage aussi qui à mon avis plaît à beaucoup, quoi. J'ai vu des gens dans des réunions professionnelles
à la sécu,
oui, j'ai eu une collègue qui était directrice d'une caisse. Il y avait un dossier qui se présentait mal et puis elle était venue à une réunion à Paris et elle me dit « Putain, on devrait jamais quitter Montauban ». Oui, parce que c'est dans Ventura, un moment, il se retrouve dans la villa du Mexicain et puis il a tellement de soucis, il se dit « Mais qu'est-ce que je suis venu faire à Paris ? On devrait jamais quitter Montauban ». Mais ce genre d'expression, et tout de suite, ça détend l'atmosphère parce que tout le monde connaît.
Dis donc, je le connais pas celui-là. Il est nouveau ?
C'est le petit dernier de chez Beretta. Je te le conseille pour le combat de près. Et puis pour les coups à travers la poche, dans le métro, dans l'autobus. Mais note, hein, faut en avoir l'usage. Sans ça, au prix actuel, on n'amortit pas.
Le prix s'oublie, la qualité reste. C'est pas l'arme de tout le monde.
J'espère qu'il est encore chaud.
Merci.
Mais parce que les mots sont pas compliqués. C'est pas le loucher ben où on va changer des syllabes et tout.
C'est le boucher.
Boucher, oui. C'est l'argot des bouchers. C'est le langage populaire, un bourre-pif, c'est très imagé, on voit tout de suite ce que c'est. Et d'ailleurs, on a le geste, en voyant le mot, on a le geste. Et puis il y a aussi des citations, c'est pas seulement le mot, c'est l'expression. Quand vous avez encore des gens qui disent les cons, ça ose tout, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, c'est une citation qui restera pendant des années. Et j'ai découvert les tontons flingueurs avant de savoir que c'était Simonin. À l'époque, je ne savais pas. Et puis, j'ai lu Grisby or Not Grisby. On a des situations noires, hein, je veux dire, beaucoup plus noires que ça. C'est, d'ailleurs, Simonin, dans ses polars, les personnages ont une vie pénible. Et le travail de Lautner et de Audiard avec Simonin sur Grisby or Not Grisby pour donner les tontons, c'est Lautner qui a voulu en faire un film drôle, quoi, parce qu'il aimait la dérision, et donc c'est plutôt le côté, ce côté décalé de Lautner.
Il y a une légende qui dit que vous, Georges Lautner, vous n'aviez pas lu Grisby or Not Grisby avant de faire le film.
Puisqu'on s'en est pas servi, ça servait à rien de le lire. On a pris que le point de départ. Et une fois qu'on a eu le point de départ qui était très bon et qui nous a fait rêver, on a brodé derrière.
Mais est-ce que, Georges Lautner, est-ce que vous vous souvenez au moins du titre du film ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Les Tontons Flingueurs et pas Grisby or Not Grisby ?
Parce qu'on avait un autre titre et on avait mis Les Tontons Flingueurs comme une plaisanterie au départ sur la claquette du film. Et à la fin, la Maison Gaumont a gardé ce titre qui pour nous était un titre provisoire. Et elle a bien fait. Maintenant, on le trouve partout, les papis, les mamies, les hommes politiques flingueurs, tout le monde flingue tout le monde. Mais à l'époque, c'était je ne sais pas lequel d'entre nous a trouvé ça, c'est pas moi, je revendique pas. Et puis il y a une suffisamment grande allusion dans le film, dans la scène de la cuisine, quand Francis Blanche dit « Touche pas au Grisby, salope ». C'était quand même un coup d'œil à Simona.
Madame Mado, je présume ?
Elle-même.
Chère madame, Maître Folas m'a fait part de quelques embarras dans votre gestion momentanée, j'espère.
Les explications, monsieur Fernand, il y en a deux. Récession et manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas que la clientèle boude, c'est qu'elle a l'esprit ailleurs. Le furtif, par exemple, a complètement disparu. Le client qui venait en voisin, « Bonjour mademoiselle, au revoir madame », au lieu de descendre maintenant après dîner, il reste devant sa télé, pour voir si par hasard il serait pas un peu l'homme du XXe siècle.
Vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure.
Alors là, monsieur Fernand, c'est un désastre. Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou, à la nage.
Le cinéma, c'était un peu sa récréation, disons. Ça l'a équilibré parce que lui, ça, il n'arrivait pas à se faire un cadre de travail. Donc le cinéma l'a obligé justement à faire des travaux qui soient rendus à l'heure, de telle façon. Mais il séparait nettement les deux. Quand il faisait des films, il n'écrivait pas de romans. Et quand il était sur un roman, il refusait les films. C'était pour lui de façon différente d'aborder la création littéraire. Il était toujours prêt à essayer quelque chose, ça c'est vrai. Il s'est présenté la possibilité de faire des chansons. Bon, il en a fait deux ou trois. Il a essayé de faire une pièce de théâtre, il n'est jamais arrivé au bout. Mais on ne peut pas tout faire dans une carrière, surtout commencer tard, puisqu'il a commencé sa carrière tard.
À quel âge ?
44 ans, quelque chose comme ça. Donc, y a beaucoup d'écrivains qui ont déjà 10 livres derrière eux à cet âge-là. Hein. C'est pour ça qu'il a fallu qu'il rattrape et qu'il n'était pas considéré comme un écrivain, parce que il n'avait pas le passé d'un écrivain qui a fait un premier livre, un second livre, qui a eu un prix, on a parlé de lui. Il a été plongé assez rapidement dans ce milieu et il voulait un peu tout à la fois, ça c'est vrai.
Il a quand même fait partie du monde littéraire de ces années 50. Il a été primé, Gallimard, dans toute cette vie littéraire mondaine parisienne.
Il a beaucoup aimé ce milieu. Pour lui, c'était vraiment un plaisir d'approcher certains auteurs, ça oui. Il aimait bien, on parle de lui, être connu, être invité.
Est-ce qu'il s'habillait pour aller au cocktail, par exemple ?
Alors là, c'est tout un problème, là. Il a mis très longtemps avant d'accepter de porter un smoking. Or, à l'époque, quand on sortait, on s'habillait beaucoup plus que maintenant. Et pendant un certain temps, on devait refuser certaines invitations parce que Albert n'avait pas de smoking. Il disait « Non, je ne porterai jamais de smoking, ça fait bourgeois, etc. » Puis un beau jour, il avait quand même envie d'aller là où on était invité, puis je l'ai un peu poussé, moi j'avais envie d'y aller aussi. J'ai fait faire un smoking bleu, je me souviens, parce que là, c'était bon, il a essayé de trouver un smoking qui correspondait mieux à l'idée qui se faisait de son élégance à lui. Et cette fois, il y a pris goût.
Est-ce que l'argot va avec le smoking ?
Oui, très bien. On l'invitait pour ça, faut dire aussi. Quelquefois, même s'il avait envie de parler comme nous parlons en ce moment, il voyait bien qu'on attendait un peu de lui, qu'il s'exprime en argot.
Qui jacte genre.
Oui, qui jacte un peu. Mais il savait bien mêler. C'est un de ses talents, justement, équilibrait quelques expressions, quelques mots d'argot, avec un langage châtié, cette facilité qu'il avait de s'insérer justement dans d'autres langages et dans d'autres milieux, peut-être, qui l'ont aidé à s'enrichir intellectuellement, ce qu'il cherchait beaucoup.
Mais Albert Simona, comment dois-je choisir les limaces pour mon Jules ?
Ben, c'est extrêmement simple, ça dépend d'abord de son teint.
Et brun, puis... brun.
Brun ?
Ou très brun.
Eh bien, alors de l'uni, alors, hein, autant que possible.
Ah, pas de rayures.
Non, pas de rayures, de l'une ni de la soie, évidemment, mais vous êtes une femme de goût, c'est... et vous ne voudriez pas qu'on panne pour n'importe qui.
Nous ne saurions assez insister sur l'importance de la limace dans la parure du truand. Qu'elle soit exactement ajustée, du dos comme du plastron, d'encolure stricte, précise d'emmanchure et de poignée, et le truand, à l'aise dans sa limace comme le tigre l'est dans sa peau, va se trouver suavement euphorique, optimiste à tout craint, d'un entre-gens d'enfer, et pour tout dire, prêt à péter le feu.
C'est un grand raconteur d'histoire. Hein.
C'était pas un menteur quand même.
Si, il avait un côté assez menteur quand même. Il mentait très bien.
C'est-à-dire
comme tout homme qui a besoin de cacher certaines choses, lui, mentait très bien.
Aux femmes?
Oh, je crois qu'il pouvait aussi mentir aux hommes. Non, non, il savait bien. Moi, j'arrivais à discerner quelquefois, mais non, il était habile. On ne savait pas toujours quand il aimait les cils. Mais ça, c'était le côté romancier. Il aimait inventer. Il aimait pas mentir pour mentir. Il aimait pour le plaisir d'inventer quelque chose.
Petit Louis, c'était pas son genre. Il marchait pas au baratin. Une vanne aimable, un geste tendre le laissait tout indifférent. Il semblait pas voir, pas entendre. Rien lui disait, il disait rien. La, 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 la,
il aimait beaucoup la nuit. Il pouvait pas se passer de parcourir Paris la nuit. C'est vrai qu'à une époque, après le dîner à la maison, il ressortait et il allait tout seul là, dans des bars pour discuter, soit avec les clients, soit avec les barmen ou les dames de petite ou moyenne vertu. Il aimait aussi leur langage, leurs histoires, tout ce monde de la nuit. Et là, il avait besoin d'être seul. Pas très drôle toujours pour moi, mais je sentais que c'était pour lui. Il se ressourçait, c'est sûr, rentrer dans la nuit comme ça.
Et est-ce qu'une fois que le succès est venu, il avait quand même des rapports avec ceux qu'il a appelés les truands?
Oh non, absolument pas. Il n'a jamais eu de vrais rapports avec les truands.
Mais parce que Albert Simonin, il a quand même fait un séjour, comme il disait, en vacances,
oui,
en prison.
Oui, bon, ben ça c'est une parenthèse, hein. Bon, mais ça n'a rien à voir avec les truands.
Comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison?
Disons que c'est un aléa de la vie dont je n'ai pas parlé et dont je ne parle pas.
Ce n'était pas quelqu'un qui se racontait. J'avais appris des bribes
Robert Sabatier
sur des périodes de sa vie, mais il n'aimait pas tellement en parler, non.
Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, sur lui que lui-même ne vous aurait pas dit?
Oh, des petits problèmes de l'occupation, d'après l'occupation, mais tout ça, on dit tellement de choses que il y a beaucoup de choses, je n'en crois rien. Et...
Parce qu'il a été emprisonné, quand même.
Oui, je sais, ça, il m'en avait parlé. Mais il m'a jamais dit pourquoi, d'ailleurs. Je crois, en effet, qu'il avait écrit dans un journal sous l'occupation seulement. Avoir écrit dans un journal sous l'occupation, ça dépend de ce qu'on a écrit. Bon, quand on a écrit des horreurs, comme certains personnages, oui, mais je crois pas que Simonin ait écrit des choses bien terribles.
Mais ça, c'était un passé dont il ne parlait pas beaucoup. C'était difficile d'en parler avec
vous
lui.
Vous savez, on avait l'impression qu'on avait envie de vivre dans le présent. On n'était pas là à se raconter notre vie.
Mais on parlait très rarement de ça.
De la guerre.
De la guerre, non, non, non. Il avait des opinions. Ses opinions profondes, il me l'a dit un jour. C'était chez moi, j'habitais le Vésinet. Je lui ai dit, mais au fond, qu'est-ce que tu es, toi, profondément, Albert? Et il me dit... royaliste. Mais on ne parlait pas de politique. Comme il avait été douché, on ne parlait pas de politique.
Douché?
Oui, douché. Ben, à la Libération, il a eu des quelques ennuis, justement.
C'est toi?
C'est moi.
Fais pas attention,
C'était un peu en désordre, je t'attendais pas si vite.
Ben moi, j'ai pas trouvé que ça passait tellement vite. La liberté sonne à 7 heures dans toutes les prisons de France.
Mais dis donc, reste pas debout, t'es pas en visite. Charles, est-ce que tu m'en veux?
De quoi?
Tu le sais bien, pas avoir été te voir.
Oh, au début, je dis pas que j'ai pas qu'à farder, mais puis après, je me suis dit que t'avais peut-être raison, parce que dans le fond, tu vois, les femmes devraient pas venir au parloir, ça fait grand berger, puis ça donne des idées à la con. Des mauvaises pensées, comme disait l'aumônier.
Parce que tu fréquentais le ratichon?
Ah ben là-bas, tout le monde a sa petite crise de pureté.
Mais il a fait de la prison. Eh oui. 5 ans. Presque. Printemps 45. Fin 50, peut-être. Ça fait beaucoup.
Qu'est-ce qu'il avait fait de mal?
Il a travaillé pendant qu'il y avait l'occupant, c'est tout. Et bon, il y a beaucoup de gens qui on pouvait pas faire autrement. Fallait bien trouver quelque chose à faire. Et c'était, ça a été très condamnable à la fin de la guerre, disons. Et donc, c'est moi qui ai pris le permis de visite. Ma mère m'a dit, bah, t'iras voir ton père. Et donc, c'est comme ça que je suis allée le voir à Poissy. Voilà. Ça faisait vraiment vieux, vieille construction ancienne, mais forteresse plutôt. Fallait donner les papiers, bien entendu. Hein. Et puis, arrivaient les prisonniers, tous vêtus pareil, en marron. Ça s'appelait un droguet et avec des sabots. Il n'était pas joyeux, ça inutile, surtout qu'il savait que ma mère et moi, on était quand même dans une situation difficile. Mais il donnait le change quand il me voyait. Il ne voulait pas m'attrister.
Est-ce que dans cette prison, il y avait des truands?
Oui, il y avait des clients bizarres, d'après le peu qu'il a pu me conter. Comme ils étaient mélangés, ben, il y avait des gens qui racontaient des anecdotes. Mon père, il a retenu et il a dû prendre des notes. Parce que là, je viens de relire une lettre dans laquelle il m'explique qu'il écrit.
Toi et tes contradictions. Tu t'es toujours mouillé par des goûts de salaire minable et tu viens de passer 5 ans à fabriquer à l'œil des pantoufles. Il te fallait les chemises de soie et les pompes cousues main et tu t'es retrouvé en droguet et en sabots. Avoue que c'est quand même drôle. Enfin, je veux dire, curieux.
Albert a buriné ses personnages dans cette... Quand il disait quand j'étais en vacances. Voilà. On n'en parlait pas beaucoup, de toute façon, sauf quand il a commencé à m'en parler, en parlant des gens. Ils avaient fait des bêtises énormes, ces gens-là, dans la vie honnête, comme disait Albert, des conneries que des gens honnêtes n'auraient pas fait.
Vous avez déjà fait de la prison, vous, Simonin?
Oui. Enfin, je pense pas que ça passionne les auditeurs.
Mais c'est un temps que vous ne regrettez pas.
Vous savez, dans la vie, je vois pas pourquoi on regretterait une période plutôt qu'une autre. La prison, c'est très inconfortable, il faut bien reconnaître. C'est, quand il y a de l'eau, elle n'est pas chaude. Quand il y a de la pitance, elle n'est pas savoureuse. Et puis il y a une certaine, disons-le, sans être bêcheur, il y a en prison une certaine promiscuité.
Vous n'aviez pourtant pas le tempérament d'un voyou.
Peut-être que si. Après tout, des jours je m'interroge, des fois je fais mon mea culpa. Je prétends pas, comme d'aucuns, avoir été un personnage extrêmement vertueux. Enfin, je me suis efforcé de le devenir. C'est tout de même déjà un effort, non?
Entre nous, Dob, une supposition, hein. Je dis bien une supposition, que j'ai un graveur. Du papier et que j'imprime pour 1 milliard de bifetons. En admettant qu'on soit 5 sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun?
20 ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne.
Il y a aussi ce fantasme du casse, et puis après, on prend l'avion et on recommence une autre vie, quoi.
Ben, disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce fantasme-là. Parce que, disons qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, on ne fait pas sa vie avec une somme aujourd'hui. Et justement, ce que les jeunes d'aujourd'hui, la différence qu'ils ont avec les anciens qui rêvaient de ça, c'est qu'aujourd'hui, justement, il n'y a plus de glamour derrière tout ça. Il y a des jeunes qui se professionnalisent. Donc c'est plus la petite truanderie ou la grande truanderie avec des principes et des règles. C'est à l'image du système capitaliste, le chacun pour soi. Et donc moi, en l'occurrence par rapport à Albert Simonin, si dans certains de mes textes je fais beaucoup référence à la prison, au monde des truands, de tous ces gens qui sont en marge de la société, ben, c'est parce que pour moi, on se doit de laisser une trace de ce révolutionnaire, quoi. Parce que c'est des gens qui sont arrivés à s'élever d'une certaine manière, avec les moyens qu'ils avaient dans la société, malgré tout. Pour être un truand de carrière, il a beaucoup, beaucoup de talent. J'ai pas peur de le dire.
Il faut être un artiste.
Vous voulez que je vous dise la dernière phrase ? Mais si par surcroît, ayant abordé vos héros d'un cœur fraternel, vous assaisonnez leur vie d'une pincée de cette poésie dont nul être, et surtout pas eux, n'est jamais totalement dépourvu, alors là, je vous le dis, les mecs, c'est gagné. Voyez ? Ça se termine sur la poésie. C'est un poète. Puis il est certain qu'il y a une poésie des voyous, il y a une poésie de la paix. Bon, on le sait depuis François Villon, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis.
On va passer par là.
Tiens, voilà Grisby.
C'est votre chat ?
Oui. Alors, c'est pas terminé, mais c'est mon père les dernières années de sa vie. C'est le portrait que j'ai fait et c'est tout à fait lui. Vous ne trouvez pas qu'il a un visage gentil ? Non ? C'était un gentil, mon papa.
Il n'aurait pas fait de mal à une mouche.
Ah non.
Il n'aurait pas buté un cave.
Oh, non. Non, moi, oui.
Vous avez buté des caves ?
Non, hélas, mais je rêve d'en buter.
C'est pas bien, hein ?
Avec Françoise Simonin-Lucas, Oxmo Puccino, Norbert Carbonneau, Marie-Hélène Simonin, Alain Decaux, Robert Sabatier, Georges Lautner, Pierre-Jean Lancry et la voix d'Albert Simonin grâce à la complicité des archives INA. Avec également les chansons Petit Louis et Tatave, écrites par Albert Simonin. Albert Simonin, L'Affranchi, prise de son Pierre Comon, mixage Guillaume Ledu, un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par Céline Terce.
C'était Une vie, une œuvre de l'été, avec aujourd'hui Albert Simonin par Élodie Maillot et Céline Terce. Et demain, même heure, vous pourrez entendre un autre épisode de notre série Polar, avec une émission sur Léo Mallet. Rendez-vous demain donc, et puis je vous annonce en avant-première une bonne nouvelle, puisque ça y est, c'est officiel, notre émission va trouver sa place sur les rayons des libraires en octobre prochain, à l'occasion des 30 ans d'Une vie, une œuvre, mais j'aurai le temps de vous en reparler. Très bonne fin d'après-midi à toutes et à tous sur France Culture.